j'ai dit que nous allions regarder dans le sacrement de l'ordre ce que représente justement ce point de vue du sacrement de l'ordre. Alors, on a posé cette question, je la lis tout de suite, et puis on verra dans quelle mesure, justement, ce n'est pas exactement la question dont on pose ici. Je suis parti, si vous vous souvenez bien, de l'institution du sacerdoce par rapport à l'Eucharistie. Je crois que c'est ce que nous devons faire, parce que c'est le point de vue de la finalité. Donc, dans une perspective dans laquelle nous nous plaçons, c'était cette finalité qui était quelque chose de premier. Puis, maintenant, nous essayons de regarder ce qui est classique, si vous voulez, ce que saint Thomas nous dit quand il parle du sacrement de l'ordre. Il part avant tout du point de vue de l'ordre du péché. Il regarde avant tout le point de vue de l'ordre dans le sacerdoce sacramentel. Alors, je lis cette question posée suite à ce que nous avons dit précédemment du sacrement de l'ordre. Ne doit-on pas conclure que le sacerdoce ministériel est très précisément le sacrement du Christ agissant dans son corps ecclésial, du Christ source des autres sacrements? Le prêtre est à la fois instrument du Christ, c'est-à-dire serviteur et envoyé du Christ, et père, c'est-à-dire source de vie et de nourriture. Le prêtre est donc l'instrument conjoint du Christ, donc ami, selon son caractère sacramentel. Il est le Christ dans son humanité sainte, en tant que celle-ci est instrument conjoint de sa divinité. Ne faut-il pas affirmer, par conséquent, que le prêtre hérite sacramentellement de la grâce capitale du Christ tête, grâce qui fait de son sacerdoce un sacerdoce royal? Ceci nous ferait comprendre comment le sacerdoce ministériel implique, mais à titre de propriété, la charge de gouvernement des âmes et de la communauté ecclésiale. Ceci expliquerait la hiérarchie évêque-prêtre, diacre, hiérarchie qui ferait donc formellement partie du sacrement de l'ordre, mais à titre second, comme propriété. En vertu du caractère royal de son sacerdoce, le prêtre représenterait alors réellement toute l'Église, qu'il récapitule sacramentellement en lui, et comme il agit in persona Christi, on doit dire que le prêtre unit réellement en lui le sacrifice du Christ et celui de l'Église, qui est incorporé au Christ, transsubstantié en lui. Et alors, le point plus délicat, c'est ce parti-là, je suis tout à fait d'accord, qu'il y a tout cet aspect qu'il faut essayer de comprendre dans le sacerdoce. On a vu la finalité, le point de vue de l'Eucharistie. Maintenant, nous essayons de comprendre ce que je vais lire du reste, les textes du Concile de Trente, qui sont très nets là-dessus, et puis vous rappeler les doctrines de saint Thomas, parce que les deux choses se tiennent. Alors, je crois qu'on doit dire en effet, le prêtre est à la fois instrument du Christ, c'est-à-dire serviteur et envoyé du Christ, et père, c'est-à-dire source de vie. Il y a les deux aspects, puisqu'il est le point de vue de l'ami, et n'est pas seulement le point de vue de l'instrument séparé. Le prêtre est donc l'instrument conjoint du Christ. Alors, instrument conjoint, je dis attention, parce que c'est une expression consacrée à l'humanité sainte du Christ. Donc, je n'oserais pas le dire. Et je crois que il faut éviter de le dire. Je comprends très bien comment c'est dit ici, en tant qu'on dit ami, mais ce n'est pas la même chose. Hein. L'instrument conjoint est mis dans un aspect très particulier pour montrer comment, dans le Christ, l'humanité sainte du Christ est liée substantiellement, du moins que l'humanité sainte du Christ subsiste dans le Verbe. C'est pour ça qu'on dit instrument conjoint. Le prêtre est donc l'instrument conjoint du Christ selon son caractère sacramentel. Il est le Christ dans son humanité sainte en tant que celle-ci est l'instrument conjoint de sa divinité. Alors, l'instrument conjoint d'humanité, du Christ, le Christ est instrument conjoint à cause du mystère du Verbe de Dieu. C'est l'état particulier dans lequel il se trouve. Peut-on dire que son caractère sacramentel, il est le Christ dans son humanité sainte? Il n'est pas le Christ dans son humanité sainte, il est le Christ dans sa grâce. Vous voyez, instrument conjoint, c'est la situation de l'humanité du Christ par rapport au Verbe. D'où découle, on va regarder ça. Si vous voulez, le mystère du Verbe qui assume la nature humaine. La nature humaine subsiste dans le Verbe, dans une union hypostatique. Et en raison même de cet état dans lequel se trouve l'humanité sainte du Christ, il y a la plénitude de grâce. La grâce du Christ et la grâce capitale. La grâce capitale est une conséquence de cet état dans lequel se trouve l'humanité sainte du Christ. C'est quasi, si vous voulez, la conséquence immédiate. Parce que l'humanité sainte du Christ subsiste dans le Verbe, il y a dans la nature humaine du Christ la grâce capitale. Les sacrements dépendent de la grâce capitale. Le Christ, par la grâce capitale, est source des sacrements. Donc, le sacerdoce nous relie à la grâce capitale du Christ, comme tous les sacrements. Et le sacerdoce relie à la grâce capitale du Christ. C'est à la grâce capitale du Christ qu'il relie. Ce n'est pas à la nature humaine en tant qu'elle est conjointe au Verbe. Formellement parlant. Il faut aussi être extrêmement précis. C'est pour ça que ça me semble difficile de dire qu'il est instrument conjoint du Christ. Parce que l'instrument conjoint, c'est l'état de la nature humaine du Christ par rapport au Verbe, qui permet de comprendre comment il y a la grâce capitale comme une quasi-propriété, comme une conséquence. Du mystère de l'union hypostatique. Mais les sacrements proviennent du Christ en tant qu'il a la plénitude de grâce, en tant qu'il est chef, grâce capitale, et donc source de grâce. Les sacrements découlent de la grâce capitale du Christ. Oui. De sorte que je crois que là, il faut un tout petit peu préciser, mais formellement, donc ça dépend de la grâce capitale du Christ. Ne faut-il pas affirmer par conséquent que le prêtre hérite sacramentellement de la grâce capitale du Christ tête? Voilà. Hérite sacramentellement. Tous les sacrements proviennent de la grâce capitale. Quel est le sacrement qui est le plus proche de la grâce capitale du Christ? C'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui est le sacrement des sacrements. Parce que c'est le Christ lui-même qui est donné. Alors je dirais, c'est dans l'Eucharistie où le Christ est donné proprement comme don. Et le sacerdoce est pour l'Eucharistie. Oui. Oui, il les contient. Saint Thomas reconnaît quand même que l'Eucharistie, c'est le sacrement des sacrements. Et que c'est lui qui donne la finalité à tous. Oui, c'est ça. Pourquoi tu n'as pas dit la finalité?
Parce que là, ça rattache la grâce.
le Christ lui-même qui est donné. C'est un sacrement. Les sacrements ont été institués par le Christ en tant que législateur. Ce que nous avons vu au point de départ. Allez, ça fait partie de tout ce qu'on a dit au début. Qu'est-ce que c'est que la sacramentalité? Pas dire que l'Eucharistie dépasse le sacrement.
Dans son
c'est le don du Christ fait sous un mode sacramentaire. Autrement, alors vous faites de l'Eucharistie comme si l'Eucharistie était au-delà des sacrements. L'Eucharistie n'est pas au-delà des sacrements. L'Eucharistie est un sacrement. Vous voyez, qui est tout entier ordonné à Jésus. Qui nous est donné dans l'Eucharistie, et qui nous est donné par l'Eucharistie d'une façon sacramentaire. Oui. Et c'est en ce sens-là que j'ai commencé, au point de vue de la sacramentalité, comprendre qu'est-ce que c'est que la sacramentalité par rapport à l'Église. C'est très important parce que ça fait comprendre qu'est-ce que c'est que l'Église. L'Église vit des sacrements. L'Église est plus que le sacrement. C'est ça quand on dit l'Église est sacrement, il faut bien comprendre. Alors on prend le terme tout à fait général de sacrement à la manière de saint Augustin. C'est que l'Église est visible et elle est un mystère. Du fait qu'elle est visible et un mystère, elle est un sacrement. Mais ce n'est pas le sacrement dans la sacramentalité dont on parle ici. On essaie de saisir ce qu'il y a de propre et de caractéristique au point de vue de la sacramentalité. Vous voyez ? On a commencé par voir, si vous n'étiez pas là au début, la sacramentalité pour essayer de préciser qu'est-ce que c'est que cet ordre particulier de la sacramentalité. Et puis, par dans cette sacramentalité, on voit quel est le sacrement des sacrements, c'est l'Eucharistie. Le sacrement est intentionnalité. Alors, vous ne pouvez pas faire l'intentionnalité de l'intentionnalité. Ça, c'est impossible.
Donc,
je ne crois pas. Vous voyez, quand le Saint-Père a dit la ratio du sacerdoce, c'est l'Eucharistie. C'est très fort. C'est ça, c'est le langage. Et en disant ça, je crois qu'il précise quelque chose qui n'a jamais été dit avec autant de rigueur et autant de fermeté. Quand il a dit au Parc des Princes, ce soir, je suis pape depuis 2 ans, je suis évêque depuis 20 ans, mais ce qu'il y a de plus grand, c'est que je suis prêtre et je peux consacrer. En montrant que tout le sacerdoce, c'est la consécration. La ratio du prêtre. C'est pour ça que j'avais pris cet ordre exprès, parce que je crois que c'est quand même par là que vous rentrez dans le mystère de la sacramentalité, c'est de voir que l'Eucharistie, c'est le sacrement par excellence, qui est donné à tous les fidèles. Le sacerdoce, c'est un service. C'est un service qui donne l'Eucharistie aux fidèles. Parce que ça donne le point de vue de la finalité. Mais une finalité qui a un mode très particulier, qui est donné à travers cette intentionnalité divine. Et l'intentionnalité divine, c'est la sacramentalité. Oui.
Non,
pas dépasser la grâce capitale. L'Eucharistie, vous voulez dire l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est le Christ lui-même, mais qui est donné par sa grâce capitale, puisqu'il est législateur. Vous voyez? Je crois que le législateur, le Christ législateur, c'est vraiment la grâce capitale du Christ. C'est le Christ chef. Je crois que l'action du Christ en instituant l'Eucharistie, c'est vraiment une action de législateur. Vous ne voyez pas ça? Non. Je dis, quand Jésus institue l'Eucharistie, est-ce que c'est le Christ législateur comme grand prêtre? Il institue comme grand prêtre. Il a le pouvoir, à ce moment-là, il a reçu du Père tout pouvoir pour instituer l'Eucharistie. Et en instituant l'Eucharistie, il l'institue comme législateur. La finalité, c'est de se donner, c'est la mort. Vous voyez, c'est de se donner. Et il se donne sous ce mode particulier qui est le point de vue du sacrement. Donne à travers le sacrement, il donne son corps et son sang sous cette modalité particulière du sacrement pour pouvoir se donner, pour pouvoir exprimer en même temps qu'il se donne comme pain, comme pain. Donc, il me semble qu'on doit maintenir que l'Eucharistie, par rapport au sacrement, à cet ordre particulier qui est la sacramentalité, que l'Eucharistie, c'est le sacrement par excellence. C'est celui donc qui va nous faire découvrir ce qu'est la sacramentalité. Et c'est lui qui finalise tous les sacrements. Le sacerdoce est institué. Le sacerdoce aurait pu très bien ne pas exister et que l'Eucharistie aurait pu exister. Et je crois que ça c'est très important pour bien faire comprendre comment de fait le sacerdoce a été institué en ajoutant une confiance nouvelle aux hommes pour que l'Eucharistie soit donnée par le sacerdoce sacramentel. Parce que Jésus aurait pu très bien le donner indépendamment des hommes. Et alors, ce que j'ai un tout petit peu peur là, c'est qu'on ne voit pas suffisamment le lien entre l'Eucharistie et le sacerdoce. Ce qui me semble être pourtant assez net. Faites ceci en mémoire de moi. Quand Jésus dit « faites ceci en mémoire de moi », il montre bien que le sacerdoce, c'est pour l'Eucharistie. C'est pour que l'Eucharistie soit donnée aux fidèles. En premier lieu. Ensuite, il y aura les autres caractères que vous soulignez. Et au fond, en premier lieu, c'est ça. Donc, l'Eucharistie étant instituée par le Christ comme grand prêtre, la grâce capitale, qui est source de l'Eucharistie, c'est bien cette grâce capitale qui est source aussi du sacrement de l'ordre. C'est comme ça qu'il me semble. Je relis. Ne faut-il pas affirmer par conséquent que le prêtre hérite sacramentellement de la grâce capitale du Christ? Voilà. Hérite, entre guillemets, parce qu'il n'hérite rien. Il est pur instrument. Donc, il reçoit la possibilité d'agir comme Jésus a agi à la scène. Comme un instrument qui est en même temps un ami. Tout à fait d'accord. Donc, un instrument ami. Donc, il a non seulement le pouvoir instrumental, mais il a aussi cette responsabilité, si vous voulez. Et donc, ce n'est pas un instrument qui n'est pas conscient, mais c'est un instrument qui agit avec amour. Donc, hérite sacramentellement de la grâce capitale du Christ-tête, grâce qui fait de son sacerdoce un sacerdoce royal. Alors, le sacerdoce royal du Christ et le sacerdoce royal des fidèles. Ça, il faut bien regarder. Repose sur quoi ? Repose sur le mystère de la plénitude de grâce du Christ. c'est que le Christ a reçu toute autorité du Père. C'est parce que c'est un sacerdoce paternel qu'il est royal. Je crois. C'est le sacerdoce du Fils, et donc qui agit avec l'autorité plénière du Père. Donc, il est royal dans ce point de vue-là. Alors, je suis d'accord que c'est ce lien avec la grâce capitale qui fait que ce sacerdoce est royal. Mais faisons attention, il est royal. Qu'est-ce que ça ajoute de plus quand vous dites ça? Alors vous ajoutez, ceci nous ferait comprendre comment le sacerdoce ministériel implique, mais à titre de propriété, la charge de gouverner. Immédiatement après le mystère de l'Eucharistie, je vois que le sacerdoce donne la possibilité de pardonner, d'effacer les péchés. Le sacrement de pénitence est ordonné à l'Eucharistie. Et il a le pouvoir de pardonner. Et en plus de ça, il y aura la question de l'ordre dans le sacrement qui va impliquer l'ordre dans l'Église, la hiérarchie dans l'Église. Et qui va, de fait, ce qu'on dira, le pouvoir de juridiction, qui touche évidemment aussi la charge de gouverner, qui est une conséquence, voyez, et qui relève directement de ce sacerdoce instrumental et d'amitié que le Christ possède. Et ceci nous ferait donc comprendre comment le sacerdoce ministériel implique, mais à titre de propriété, la charge de gouvernement des âmes et de la communauté ecclésiale. Ceci expliquerait la hiérarchie, tout à fait d'accord, la hiérarchie des évêques et des prêtres viennent de là. Hiérarchie qui ferait donc formellement partie du sacrement de l'ordre, mais à titre second, c'est une conséquence. Qu'est-ce qui constitue l'ordre? Qu'est-ce qui constitue le sacerdoce ministériel? C'est le pouvoir c'est de constituer l'Eucharistie. C'est pour ça que la ratio, comme dit le Saint-Père, la raison d'être du sacerdoce, c'est l'Eucharistie. Et donc c'est bien cet ordre immédiat. Il y a du sacerdoce, pardon. Tous les deux sont liés à la grâce capitale, c'est sûr. Mais la finalité du sacerdoce, la finalité première du sacerdoce, c'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie reste alors le sacrement par excellence, puisque la finalité du sacerdoce, c'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est donc vraiment le sacrement par excellence. Et ce n'est pas l'ordre qui est le sacrement par excellence. Le sacrement par excellence, c'est l'Eucharistie, puisque c'est celui, l'ordre est ordonné à celui-là. Et les deux aspects de la pénitence et du gouvernement, c'est le sacerdoce par rapport justement au mystère de l'Eucharistie, pour permettre au corps mystique, pour permettre à l'Église de vivre pleinement du mystère de l'Eucharistie. D'où la pénitence, d'où le point de vue du gouvernement. On va essayer de comprendre ça progressivement. Alors, je reprends ce qui est dit dans le point de vue du Concile de Trente, hein, pour que nous voyons bien. Donc, il y a d'abord l'institution du sacerdoce, ce que nous avons vu. Comme ce saint ministère du sacerdoce est une chose divine, il convenait pour qu'il fût exercé avec plus de dignité et de respect qu'il y eut dans la structure parfaitement ordonnée de l'Église plusieurs ordres différents de ministres. Alors, vous voyez la convenance. Hein. Il convenait pour qu'il fût exercé avec plus de dignité et de respect. Raison de convenance et de dignité et de respect. Qu'il y eut dans la structure parfaitement ordonnée de l'Église plusieurs ordres différents de ministères, qui seraient, par leur fonction, au service du sacerdoce, répartis de telle sorte que ceux qui auraient déjà reçu la tonsure cléricale puissent s'élever par les ordres mineurs aux ordres majeurs. En effet, les saintes lettres mentionnent clairement, l'Écriture mentionne clairement non seulement les prêtres, mais aussi les diacres, et elles enseignent dans les termes les plus graves ce à quoi on doit surtout faire attention quand on les ordonne. Dès le commencement de l'Église, donc c'est toute c'est essayer de comprendre que dans le sacerdoce même, il y a un ordre. Il y a une pluralité. On va essayer de comprendre après. Dès le commencement de l'Église, on sait que les noms des ordres suivants, sous-diacres, acolytes, exorcistes, lecteurs et portiers, et le ministère propre à chacun, ont été en usage à des degrés divers. Le sous-diaconat est rattaché aux ordres majeurs par les pères et les saints conciles dans lesquels on lit de fréquentes mentions des autres ordres inférieurs. Comme le témoignage de l'Écriture, la tradition apostolique et le consentement unanime des pères manifestent clairement que l'ordination sainte qui s'accomplit par des paroles et des signes extérieurs confère la grâce. Personne ne doit douter que l'ordre soit vraiment et à proprement parler un des sept sacrements de l'Église. L'apôtre dit en effet, « Je t'invite à raviver la grâce de Dieu déposée en toi par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Mais parce que dans le sacrement de l'ordre, tout comme dans le baptême et la confirmation, un caractère est imprimé qui ne peut être ni détruit ni enlevé. Le Saint-Concile condamne à juste titre l'opinion de ceux qui affirment que les prêtres du Nouveau Testament n'ont qu'un pouvoir temporaire, qu'une fonction ordonnée selon les règles, ils peuvent redevenir laïcs s'ils n'exercent pas le ministère de la parole de Dieu. Très bien. Quelques petites tendances qui se sont manifestées ces derniers temps. Eh bien, le Concile précise, si quelqu'un affirme que tous les chrétiens, sans distinction, sont prêtres du Nouveau Testament, ou que tous possèdent un même pouvoir spirituel, il ne fait rien d'autre, semble-t-il, que d'anéantir la hiérarchie ecclésiastique, qui est comme une armée rangée en bataille. Comme si, à l'encontre de la doctrine de saint Paul, tous étaient apôtres, tous prophètes, tous évêques, tous prêtres, tous docteurs. La démocratie sainte. Avec l'égalité la plus absolue par le point de vue de la base. Vous voyez bien, c'est condamné par le Concile de Trente. Alors évidemment, il peut y avoir des petites modifications, je suis tout à fait d'accord, il y a des précisions, mais il faut que ce soit dans la ligne de l'enseignement de l'Église. Ainsi, le Saint-Concile déclare, outre les autres ordres de l'Église, les évêques qui succédèrent aux apôtres appartiennent à titre principal à cet ordre hiérarchique, qu'ils ont été placés, comme le dit le même apôtre, par l'Esprit Saint pour gouverner l'Église de Dieu, qu'ils sont supérieurs aux prêtres, qu'ils confèrent le sacrement de confirmation, qu'ils ordonnent les ministres de l'Église, et qu'ils peuvent accomplir plusieurs autres actes et fonctions pour lesquels les autres d'un ordre inférieur n'ont aucun pouvoir. En outre, le Saint-Concile enseigne que l'ordination des évêques, des prêtres et des autres degrés ne requiert ni le consentement, ni l'appel, ni l'autorité du peuple, d'une puissance ou d'une magistrature civile, comme si, sans eux, l'ordre était sans valeur. L'autorité, ça vient d'en haut. C'est vrai, c'est le propre de l'Alliance Nouvelle. Toute autorité vient du Père, et toute autorité vient du Christ. Donc, le consentement des fidèles, c'est bien, on revient très fort à cela, le consentement des fidèles est facultatif. Il n'est pas essentiel au sacerdoce. Vous voyez, en outre, le Saint-Concile enseigne que l'ordination des évêques, des prêtres et des autres degrés ne requièrent ni le consentement, ni la peine, ni l'autorité du peuple, d'une puissance ou d'une magistrature civile, comme si, sans eux, l'ordre était sans valeur. Ils décident au contraire que ceux qui, appelés et institués par le peuple, ou par une autorité ou une magistrature civile, s'élèvent à l'exercice de ce ministère, et ceux qui, poussés par leur propre témérité, les prennent, doivent être tous tenus, non pour des ministres de l'Église, mais pour des voleurs et des brigands qui ne sont pas entrés par la porte. C'est bien précis. Alors essayons de comprendre. Vous savez que saint Thomas commence son traité du sacrement de l'ordre en montrant que le sacrement de l'ordre peut être saisi de cette manière que tout ce que Dieu fait implique ordre, mesure et poids. La grande vision augustinienne à partir du livre de la sagesse. Que ce qui est vrai de l'ordre de la créature est encore beaucoup plus vrai de l'ordre de la grâce. Autrement dit, plus on s'élève dans la perfection, plus on retrouve un ordre plus parfait. Que c'est à l'égard des créatures les plus inférieures que l'ordre est le moins distinct. Donc, il est normal de retrouver dans la communication de la grâce, le point de vue surnaturel, de retrouver quelque chose de plus parfait que dans l'ordre naturel. C'est un raisonnement que saint Thomas prend souvent. Vous savez que c'est le raisonnement pour lequel il prend le point de vue que la grâce est un habitus quantitatif. C'est le raisonnement qu'il prend pour montrer que les vertus théologales sont des vertus. Pour bien faire comprendre que on n'est pas simplement instrument, on n'est pas simplement mu. Dieu veut la coopération. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Et ceci contre la position de ceux qui veulent, au point de vue philosophique, on voit très bien cette position de ceux qui veulent que Dieu, pour être plus exalté, ne peut pas créer des causes secondes. Et donc que tout est immédiatement dépendant de Dieu comme des instruments. Et on dit ça pour exalter la grandeur de Dieu, pour exalter la majesté de Dieu, oubliant que la grandeur de Dieu, c'est de créer des causes secondes. Que la grandeur de Dieu, c'est de confier à la créature une fécondité. Donc d'être source. C'est plus grand pour Dieu, comprenez bien, c'est plus grand. Nous comprenons mieux la grandeur de Dieu quand nous regardons la grandeur de ses effets. Et donc si Dieu veut communiquer à des créatures d'être source de vie, et pas uniquement des instruments, il manifeste davantage sa grandeur. Et c'est en ce sens-là qu'on peut découvrir dans l'ordre de la nature un véritable ordre qui repose sur des causalités, puisqu'il n'y aurait pas d'ordre s'il n'y avait pas de causalité seconde. L'ordre présuppose ces causalités secondes. Dans l'ordre surnaturel, il est normal de retrouver quelque chose d'analogue, différent. Dit bien d'analogue, c'est-à-dire que dans l'ordre surnaturel, on va découvrir que par la finalité, il y aura l'unité, qu'il soit un comme nous. Alors ça, c'est bien affirmé, l'unité, mais que dans cette unité, il doit y avoir un ordre et pas de confusion. Et cet ordre, on le retrouve à l'intérieur même des sacrements pour réaliser dans l'Église un ordre de causalité instrumentale, mais qui n'est pas uniquement un instrument, qui implique aussi le consentement. Il faut que le prêtre, en agissant comme prêtre, c'est-à-dire en instituant, en vivant du mystère de l'Eucharistie, et en consacrant, ait l'intention de faire pleinement ce que le Christ veut, l'intention de faire ce que l'Église veut. Donc à ce moment-là, soit pas uniquement mu, mais qu'il se meuve volontairement. Et c'est par là que saint Thomas légitime le point de vue du sacerdoce comme ordre. L'ordre qui existe dans l'Église est un ordre qui relève des sacrements. C'est pas directement la grâce, hein. La grâce implique un ordre, mais un ordre invisible. Quel est le plus saint parmi nous? Nous ne savons pas. Et donc, on ne pourra pas dire, hein, dans une procession, que les plus saints se tiennent en queue de la procession et que les moins saints au début de la procession. Hein, comme on ne peut pas le savoir, personne ne peut savoir qui est le plus saint. Donc, on ne peut pas. C'est un ordre caché. Tout le mystère de l'Église qui est caché. Ce qui est le plus profond dans l'Église est caché. Ce qui est le plus divin dans l'Église est caché, puisque c'est un ordre de grâce. Et donc la sainteté de la grâce, elle est cachée. Mais il est nécessaire, puisque l'Église implique un prolongement du mystère de l'incarnation, que c'est l'Église du Verbe incarné, il est normal qu'il y ait un ordre visible. Et cet ordre visible est donné par les sacrements. Mais comprenons bien que cet ordre visible est pour l'ordre invisible, c'est-à-dire pour la sanctification de tous les membres du Christ. Bien, le sacrement de l'ordre, c'est justement pour donner d'une façon visible l'ordre qui existe dans l'Église. Mais cet ordre visible de l'Église, que nous voyons par le sacrement, est tout entier ordonné à l'ordre invisible de la grâce. Les sacrements sont pour la grâce. Restantum, comme dira saint Thomas, pour la réalité dernière et ultime. Donc les sacrements sont tout entiers ordonnés à la communication de la grâce, pour la perfection de la grâce. Donc l'ordre visible de l'Église est ordonné à l'ordre invisible. Et c'est justement ça le caractère propre du sacrement, qui est de l'ordre de l'intentionnalité. Je ne m'arrête pas au sacrement, je ne peux pas m'arrêter au sacrement. Les sacrements, certains sacrements présupposent la grâce, c'est ce qu'on appellera les sacrements des vivants, et c'est bien l'Eucharistie. Certains sacrements présupposent la grâce, donc ils sont seconds et ils sont ordonnés à la grâce. Donc on voit bien cet ordre sacramentel qui est le caractère visible de l'Église et qui est tout entier ordonné au caractère invisible, qui est le caractère visible de l'Église et qui est le caractère aussi de l'Église dans son pèlerinage, puisque normalement les sacrements n'existeront plus dans la Jérusalem céleste. Ils sont pour la croissance de la foi et de l'espérance et de la charité. Ils sont donc pour la croissance de la charité, de la grâce. Ils sont pour réparer les luttes, les pertes de force dans les luttes, et pour nous sanctifier comme des remèdes. C'est le propre des sacrements. Nous le verrons à propos du baptême, ça surtout. C'est à propos du baptême qu'on le voit le mieux. Parce que chaque sacrement à quelque chose d'unique qui nous révèle le mystère de l'Église d'une façon visible, ordonnée à la visible. L'Eucharistie je vous l'ai dit à propos de l'Eucharistie, nous allons voir maintenant à propos de l'ordre. L'Eucharistie, qu'est-ce que l'Eucharistie nous fait comprendre? L'unité du mystère de l'Église. Bien l'unité, puisque c'est le sacrement où le Christ est donné comme pain et comme vin, et donc Jésus est donné d'une façon telle qu'il veut nous faire comprendre l'unité substantielle de vie qui doit exister entre lui et nous. Et l'Eucharistie est donnée pour que nous comprenions, et non seulement pour que nous comprenions, mais pour que nous vivions, et pour que la croissance de cette unité augmente. Le sacrement de l'Eucharistie est donné pour que nous puissions vivre pleinement de cette unité substantielle de vie avec Jésus. Donc pour que la grâce en nous s'épanouisse pleinement et totalement. Pour qu'il y ait cette unité plénière de vie. Le sacrement de l'Eucharistie est ordonné à cela. Donc le sacrement de l'Eucharistie nous fait saisir de façon tangible, visible, par le signe, l'unité substantielle de l'Église avec le Christ. C'est le sacrement du corps mystique. C'est le sacrement de l'époux et de l'épouse. C'est le sacrement qui nous fait comprendre aussi que la prière du Christ est notre prière et que notre prière est celle de Jésus. Cette unité plénière. Le sacrement de l'ordre, il nous est donné en premier lieu pour l'Eucharistie. Je crois qu'il faut maintenir ça. Le sacrement de l'ordre est donné en premier lieu pour l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est toujours à partir de cette parole de Jésus que l'Église a compris ce sacrement particulier qui était le sacrement d'ordre. Faites ceci en mémoire de moi. Donc ceci, ça fait comprendre la première finalité du sacrement de l'Eucharistie. Il est tout entier ordonné à la consécration de l'Eucharistie. Il est tout entier ordonné au mystère même de l'Eucharistie. Le sacrement d'ordre est ordonné aussi, ou plus exactement, il est ce qui va nous faire comprendre que dans l'Église, il y a un ordre voulu par la sagesse de Dieu. Autrement dit, tous n'ont pas la même fonction. Il y a un ordre voulu par Dieu. Et ceci, c'est justement parce que le sacrement implique un pouvoir divin. Et ce pouvoir divin va se réaliser dans l'Eucharistie et dans le mystère du pardon, le mystère de la réconciliation. Il y a les deux aspects. Et que par l'Eucharistie, il y a aussi possibilité de communiquer la parole et d'enseigner. Et donc, il faut comprendre que par le sacrement d'ordre, nous découvrons dans l'Église un ordre voulu par Dieu. Et le prêtre, justement, a reçu du Christ ce pouvoir instrumental comme ami, le prêtre doit manifester cette volonté profonde de Jésus qui, agissant de la part du Père, agit dans la sagesse de Dieu et que l'Église est œuvre de la sagesse de Dieu. Et parce que l'Église est œuvre de la sagesse de Dieu, il y a un ordre. Et cet ordre, il est marqué, il est manifesté par ces différents aspects de l'ordre. Alors, nous comprenons par là comment, à l'intérieur du sacrement de l'ordre, on va trouver du plus et du moins. Ce que n'existait absolument pas dans l'Eucharistie. L'Eucharistie est une parce qu'elle doit manifester l'unité. Et l'Eucharistie, alors vous allez dire, il y a les deux, la consacration du pain et du vin, mais c'est parce que l'unité est dans le sacrifice. L'unité se réalise dans le sacrifice. Et que dans le sacrifice, il y a justement séparation du corps et de l'âme. Il y a le sang qui est versé. Et donc il faut que le sacrement manifeste comment se réalise cette unité. Et cette unité se réalise à travers le mystère même du sacrifice de la croix. Et c'est pour ça que cette unité est donnée dans la dualité. Elle n'est pas donnée dans l'unité. Elle est donnée dans la dualité pour que nous comprenions que l'unité de l'Église se fait par la croix et se fait dans le sacrifice. Mais c'est bien l'unité de l'Église qui est manifestée par l'Eucharistie. Ce n'est pas le baptême qui manifeste l'unité. En premier lieu, c'est-à-dire d'une manière la plus parfaite. C'est l'Eucharistie qui manifeste l'unité de l'Église de la manière la plus parfaite. L'ordre va au contraire manifester que l'Église est une œuvre de sagesse. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur même de l'ordre, il y a du plus et du moins. Et ce plus et ce moins sont manifestés à travers ce qu'on dit.